dossier, ça.
J'espère que vous avez fait très attention aux paroles que nous venons de chanter. Je les trouvais comme ça juste avant que Charles se lève pour diriger un cantique. Et donc, je me demande de chanter celui-là parce que nous avons demandé que Jésus soit notre maître. Et ce que je vais vous dire ce soir a beaucoup rapport avec cela. Et donc, j'espère que c'était vrai pour chacun et chacune de nous. Je dois dire que c'est un plaisir pour moi d'être ici. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas pu être là et ça me manquait. Et c'est bien de retrouver les frères et sœurs que je connais depuis longtemps, que je n'ai pas vu depuis, dans certains cas, 3 ans. D'autres même plus longtemps que cela. Donc c'est toujours bien de nous trouver ensemble, que nous avons chanté hier soir plusieurs cantiques qui parlent justement de ce rapport que nous avons les uns avec les autres. Et ça c'est très très fort et quelque chose que j'aime et que je chérisse. Le titre de mon sujet pour ce soir, c'est garder unité face aux dangers intérieurs, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Assemblée. Et je dois dire que ce n'est pas un sujet facile à discuter, à traiter, car c'est un sujet qui est très vaste. C'est un sujet qui demande beaucoup d'études, des écritures, beaucoup de réflexions et beaucoup de volonté pour la mettre en pratique. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend le jour au lendemain, c'est quelque chose qui s'apprend à travers le temps, et quelque chose dont nous avons tous besoin. Lorsque je pense à l'importance de l'unité dans une assemblée, c'est justement le sujet. J'ai écrit sur le tableau des passages que nous allons regarder ce soir, sauf à oublier un, mais je vous dirai cela dans un moment. Quand je pense à l'importance de l'unité dans une assemblée, je dois admettre que ce qui est difficile n'est pas ce que disent les Écritures. C'est facile à comprendre ce que disent les Écritures à ce sujet. Quand je prends ma Bible et je lis à travers la Bible, parce qu'il y a tellement de passages qui traitent nos relations entre nous, et je note ces passages, je réfléchis sur ces passages, je me rends compte que c'est facile à comprendre. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça la difficulté. Mais ce qui est difficile, c'est justement la volonté. Le désir de la mettre en pratique, le désir de vraiment faire ce que Dieu attend de nous. Est-ce que je considère, par exemple, l'unité avec mes frères et sœurs comme primordial et comme quelque chose de précieux, quelque chose de grande valeur devant Dieu? Est-ce que je la veux vraiment? C'est là la question que je me pose chaque fois que je considère ce sujet. Il est certain, bien sûr, que Dieu a toujours voulu que son peuple soit uni. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, quand on traite le sujet d'entre frères et sœurs en Christ. Il y a tellement de passages dans le Nouveau Testament qui parlent les uns les autres, par exemple. Et on peut faire toute une liste de ces textes, que ces textes-là, et passer 2 semaines, 5 heures par jour, 10 heures par jour, à traiter ces sujets-là, et on n'aurait pas fini avec le sujet. Il y a tellement à dire dans le Nouveau Testament à ce sujet. L'apôtre Jean a dit, en 1 Jean chapitre 4, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Et je suis tenté de dire que la personne qui n'arrive pas à aimer comme il faut n'aime pas Dieu, et ne connaît pas Dieu. Ça, c'est le contraire de ce qu'a dit Jean dans ce texte. Selon Jésus, le deuxième des deux plus grands commandements, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour moi, le mot clé dans ce qu'a dit Jésus, ce qui est cité de l'Ancien Testament, c'est le petit mot comme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eric Fromm, un écrivain, je crois qu'il est allemand, mais il a écrit un petit livre en français qui s'appelle « L'art d'aimer ». Il a dit dans ce livre que pour qu'une personne arrive à aimer l'autre, il faut que d'abord qu'elle aime soi-même. C'est-à-dire, il faut avoir une certaine estime de soi, il faut avoir un certain amour propre, bien sûr, dans la limite, afin d'arriver à aimer les autres. Et Jésus a dit bien, c'est Dieu qui l'a dit en premier, et puis Jésus l'a cité en Matthieu chapitre 22, verset 39, que j'ai oublié de marquer sur le tableau. Pour le dire d'une autre façon, le Proverbe 6, verset 19, dit que Dieu a de la haine pour les provocateurs de la discorde. Le verset dit explicitement qu'il a en horreur celui qui sème ou qui déchaîne les querelles entre frères. Je ne veux pas que Dieu me haïsse, lui qui est amour. Je ne veux pas que Dieu me haïsse, lui qui est aussi saint, tellement saint qu'il a en horreur ou qu'il déteste la division à un tel point que le texte dit qu'il est celui ou celle qui déchaîne les querelles entre frères. Je ne veux pas être l'horreur de son âme. C'est ça la traduction littérale de ce verset. Je ne veux pas être l'horreur de son âme. Et j'espère que le même est vrai pour vous aussi. Pas seulement, je ne veux pas que Dieu m'haïsse, ou que je sois l'horreur de son âme. Au contraire, je dois vouloir chercher, ou chérir plutôt, chérir l'unité et la chercher de tout mon être. Car la dernière volonté de Jésus, exprimée dans sa prière en Jean 17, seulement quelques heures avant de mourir, était que nous soyons un les uns avec les autres. D'abord, bien sûr, que nous soyons un avec Dieu, mais que nous soyons un les uns avec les autres. Et justement, quelques heures plus tard, il est allé à la croix pour la rendre possible. J'ai dit il y a un moment que le titre de mon sujet, c'est « Garder l'unité face au danger intérieur ». Et mon procédé pour traiter ce sujet ce soir, tout ça c'était l'introduction. Mon procédé pour traiter le sujet pour ce soir, c'est de voir l'unité, comment garder l'unité face au danger à l'intérieur de moi-même. Je sais que ce qui voulait que je traite, c'est à l'intérieur de l'Assemblée, mais je vais le traiter de cette façon-là parce que c'est un sujet vaste et je crois que c'est là qu'il faut commencer. Comment faire face aux dangers qui viennent de moi-même, et là, à l'intérieur de vous-même aussi. Car cela doit commencer pour vous aussi à l'intérieur de vous. Car l'un des plus grands dangers à l'unité dans une assemblée, entre frères et sœurs, dans une famille, entre amis, vient de là. C'est-à-dire de l'intérieur de nous. Cela veut dire qu'afin de lutter pour l'unité face aux dangers intérieur à une assemblée locale où je me trouve, je n'ai pas à m'occuper des autres en premier. Je n'ai pas à m'occuper des autres en premier, mais de moi-même. Il faut que chaque chrétien s'occupe de lui-même en premier, car c'est une attitude de cœur qui commence avec l'individu. Ainsi, maintenant, tout ce que je vais vous dire, je vous prie, en réfléchissant à ce que je vais vous dire, en réfléchissant à ce sujet et en lisant les passages que nous allons lire ensemble, je vous prie, ne pensez pas en vous, ah, ce serait bien pour telle ou telle personne. Je demande à chacun et chacune ici ce soir de dire, qu'est-ce que cela me dit? Parce que c'est là où il faut commencer. Comment puis-je, moi, être ce que Dieu attend de moi par rapport à ce que je lis dans les Écritures? Suis-je prêt, moi, à changer mes attitudes, mon comportement, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse? Est-ce que j'ai une attitude de prière et d'humilité pour que cela s'accomplisse? Rappelons-nous, et je le dis maintenant pour la troisième fois, vous n'avez pas peut-être compté, mais je dis maintenant la troisième fois, parce que je suis convaincu de cela, connaître Dieu, ou connaître ce que Dieu attend de moi, ce n'est pas ce qui est difficile. Je peux lire le passage, on en voit les passages, sont tellement faciles, chacun des enfants peut le comprendre. Mais ce qui est difficile, c'est de le mettre en pratique. Parce que c'est notre volonté qui doit être maîtrisée. Est-ce que je veux vraiment vivre en union avec ce frère-là ou cette sœur-ci? Et est-ce que je suis prêt à tout faire pour la voir et pour la garder? Est-ce que je suis prêt, moi, à faire le premier pas? Car lutter pour être vraiment un avec mon frère et ma sœur, mes frères et sœurs, exige quatre choses de moi. Je les écris sur le tableau. Il exige de moi l'amour. Il exige de moi l'humilité. Il exige de moi la douceur. Et bien sûr, la volonté. L'amour, l'humilité, la douceur et la volonté. Est-ce que j'ai ces quatre choses en moi? Ou dois-je les travailler? C'est ça la question que chacun doit se poser. Est-ce que j'aime, par exemple, comme il faut? Et comment faut-il aimer quelqu'un? Jésus a dit selon Jean 13, versets 34 et 35, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Encore ce mot, « comme ». Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres à ceci. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je l'ai dit à Lyon, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais je l'ai dit ailleurs. Je suis convaincu qu'une des raisons pourquoi il y a tellement de groupements religieux dans ce monde, pourquoi il y a tellement de gens qui ne croient plus en Dieu, c'est parce que les frères et sœurs du passé n'ont pas gardé l'unité entre eux. S'il y a un monde qui n'accepte pas le Christ que Dieu a envoyé dans ce monde, c'est parce que nous n'avons pas agi comme il faut les uns envers les autres. Si les gens ne veulent pas reconnaître que nous sommes disciples de Christ, c'est parce que nous n'avons pas l'amour comme il faut les uns pour les autres, ou au moins les frères et sœurs du passé. Mais combien de personnes dans le monde vivant ont peut-être renoncé à Dieu à cause de notre comportement? Combien d'enfants dans une assemblée sont éloignés de Dieu éternellement à cause des comportements des frères et sœurs dans l'assemblée? Vous voyez le danger qui vient de l'intérieur, et ça commence à l'intérieur de moi-même ou de vous-même. Une fois, j'ai posé la question, comment est-ce que j'aime comme il faut? Je pose aussi la question, est-ce que j'ai vraiment un cœur humble? Vraiment humble. Humble devant Dieu, mais humble devant mon frère ou ma sœur. Est-ce que j'agis et est-ce que je parle toujours avec douceur? Et j'insiste sur ce mot « toujours » parce que dans la Bible, dans notre Nouveau Testament, il y a tellement de fois que ce mot, dans plusieurs contextes, vient. Qu'il faut parler avec quelqu'un, il faut corriger quelqu'un, il faut s'entretenir. Comment? Avec douceur. Et bien sûr, est-ce que je veux, et je répète, est-ce que je veux vraiment être un avec cette personne ou ces personnes, ou est-ce que je la supporte seulement? Ou est-ce que même, peut-être, je ne la supporte même pas? Parce que le commandement que Jésus a donné à ses apôtres, qui est répété pour nous par l'apôtre Jean, c'est un commandement donné, ce qui veut dire qu'il faut prendre une décision, il faut chercher à faire quelque chose. Ce n'est pas pour laisser ça à quelqu'un d'autre. Et si tout le monde faisait la même chose, n'est-ce pas? Si tout le monde, chacun et chacune, dans une assemblée, des assemblées, faisait le premier pas les uns envers les autres, on est toujours l'unité, réconciliation. Mais c'est quand il y a quelqu'un qui ne fait pas qu'on a des problèmes. Une fois, je l'ai entendu la première fois en Guadeloupe, je crois, non, oui, en Guadeloupe, a montré dans un texte de Jacques trois choses que Jacques a révélé pour avoir la paix, qui est une autre façon de dire d'avoir l'unité. Jacques a dit, j'aime bien cette expression, Jacques a dit, il s'est adressé aux personnes déjà chrétiennes, que pour avoir la paix, en Jacques chapitre 4, verset 7, il faut soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Deuxième chose, verset 8, approchez-vous de Dieu. Et troisième chose, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur. Et dans le prochain verset, verset 11, Jacques 4, verset 11, je trouve le résultat de ces attitudes de cœur. Si je suis vraiment soumis à Dieu, si je me suis vraiment approché de Dieu, si je me suis vraiment humilié devant le Seigneur, je ne vais pas médire mon frère ou ma sœur. Parce que dans le prochain verset, il parle de médisance. Et bien sûr, on peut ajouter à la médisance toutes autres, les autres façons de maltraiter ou d'abaisser un frère ou une sœur, telles que la colère excessive, ou blessante, ou le tourmente, la calomnie, les hauts dits, les racontages, où on raconte ceci ou cela à telle ou telle personne, et ce n'est même pas leurs oignons. Les paroles intentionnelles qui blessent, les paroles dites sans réfléchir à comment elles peuvent être interprétées. Et bien sûr, toutes ces choses font mal. Il ne faut pas que je me trompe. Et il ne faut pas que vous me trompiez non plus. Si j'agis mal envers quelqu'un, si je parle mal à quelqu'un ou de quelqu'un, même si j'ai raison, si je suis comme cela trop souvent, c'est-à-dire ça devient une habitude pour moi, je ne serai pas soumis à Dieu, je ne serai pas proche de Dieu, je ne serai pas humble ou soumis humble devant Dieu. Au contraire, cela montrera que je n'ai pas vraiment l'intention de travailler l'unité avec mes frères et sœurs, car c'est évident que je ne suis pas vraiment sincère dans mon désir pour la voir. Mais Job l'a dit d'une autre façon au chapitre 2 de son livre, verset 20, où il a parlé de la foi morte ou la foi vivante. Il a dit que la personne qui n'a pas de bonnes œuvres, sa foi est stérile. Sa foi est stérile. Mais qu'est-ce que c'est une bonne œuvre? Qu'est-ce que c'est une bonne œuvre? On peut faire toute une liste de choses qui sont des bonnes œuvres, des bonnes actions, on peut le traduire aussi. Mais selon l'exemple donné par Jacques dans les versets précédents, une bonne œuvre, c'est d'agir. D'agir, dans le contexte d'agir pour, avec amour envers un frère ou une sœur. Dans le contexte, c'est de donner à manger s'il faut, de donner les choses qu'il faut pour se revêtir, ça voilà une œuvre bonne. Si je n'agis pas comme il faut, ou si je vous parle d'une mauvaise manière, même si j'ai raison dans ce que je dis, selon la pensée de Jacques, cela serait une œuvre, ce ne serait pas une bonne œuvre, et ma foi sera morte. En 2, verset 14, Jacques a commencé à sa pensée par poser des questions. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Et la réponse sous-entendue par Jacques dans ce verset, c'est non. Cette sorte de foi ne peut pas sauver. J'ai beau dire que j'ai la foi, mais si je ne la démontre pas, pas agir selon la volonté de Dieu dans n'importe quelle situation, ça c'est une bonne œuvre. Si je ne démontre pas, ma foi sera morte. Et là aussi, votre foi sera morte si vous n'agissez pas selon la foi. Mais Jacques a dit d'une autre façon encore, en chapitre 1, le verset 26, et commence le verset avec le mot « si ». Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué combien de fois Jacques emploie ce mot « si ». Ça peut être une étude là à faire, un petit conditionnel, « si ». Ainsi, 1:26, « si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Et là, Jacques s'approche plus, si vous voulez, à notre sujet pour ce soir. Et l'un des plus grands dangers à l'unité dans une assemblée, est-ce que ma façon de parler ou les paroles que j'utilise peut rendre ma religion vaine? Et la réponse, selon Jacques, c'est oui. Jacques a dit, soumettez-vous à Dieu, approchez-vous de Dieu, humiliez-vous devant le Seigneur, sinon, si je médis mon prochain ou fais du mal à mon prochain d'une manière ou d'une autre, ma foi sera morte et ma religion sera vaine, selon ce qu'a dit Jacques. Mais c'est fort de dire cela, n'est-ce pas? C'est très fort de dire que ma foi est morte, que ma religion est vaine, si j'agis mal envers un frère ou une sœur. Et ça doit me faire réfléchir. ça doit me faire réfléchir. Pourrais-je perdre mon salut? Pourrais-je perdre mon âme à cause de mon mauvais comportement? Et selon ce que dit Jacques, la réponse serait oui, si c'est une habitude. Si c'est une habitude. Brancher ou trébucher est une chose, mais ne pas être soumis à Dieu habituellement, ne pas être proche à Dieu, de Dieu habituellement, ne pas être humble devant Dieu habituellement, c'est un manque de foi. Et ça démasque une foi stérile. Dans une assemblée, dans votre assemblée, entre amis, le plus souvent, qu'est-ce qui casse ou qu'est-ce qui empêche l'unité? Ou qu'est-ce qui la détruit le plus souvent dans une assemblée? Donc je réponds à ma propre question selon mon expérience. Je voyage énormément, mais j'ai quand même voyagé. Je suis allé en Afrique, je suis allé aux Antilles, je suis allé aux États-Unis, je suis en France. Et j'ai vu pas mal d'assemblées. Et je dirais que la chose qui casse le plus souvent l'unité, l'union dans une assemblée, c'est une malentente à cause de mauvaise communication. Une malentente à cause de mauvaise communication. Nous disons des choses que nous n'aurions pas à dire. Et cela fait mal. Une autre manière de dire quelque chose, même si ce que nous disons est vrai, et même si nous avons raison de le dire, mais notre façon de le dire fait mal. Ou je peux tourner la pièce. Nous avons cru entendre quelque chose qui nous fait mal, et nous arrivons à des conclusions sans vraiment chercher à comprendre. C'est-à-dire, nous n'essayons pas à clarifier pour voir si ce que nous avons cru entendre est vrai ou faux, ou c'est ce que la personne a voulu vraiment nous dire. Et au fur et à mesure que le temps passe, on imagine davantage de tort et la division entre vous et la personne, les personnes grandissent. Et c'est de plus en plus difficile à se réconcilier. Parce qu'on a mal compris une chose. Mais je ne parle pas ici de problèmes d'opinion. Je ne parle pas de problèmes d'opinion qui peuvent diviser, mais simplement de mauvaise façon de communiquer, que cela soit voulu ou non. Et je dis voulu ou non, et c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on réfléchisse beaucoup, qu'on étudie beaucoup sur ce que disent les Écritures à ce sujet, pour savoir ce que Dieu veut, pour qu'on évite de faire ces choses par ignorance. Souvent, a dit Jacques, les mauvaises paroles, c'est chapitre 3, verset 14, et les mauvaises compréhensions viennent de jalousie et de rivalité. Parfois, sans que la personne s'en rende compte qu'elle est jalouse ou qu'elle a un peu de rivalité dans son cœur. Et moi-même, je me pose la question parfois, et je crois que c'est une bonne question à vous poser aussi. Est-ce que si j'ai quelque chose qui ne va pas entre moi et une soeur ou un frère, est-ce que c'est parce que je suis jaloux? Est-ce que c'est parce que je suis un peu en rivalité avec la personne? Parce que Jacques dit que ça vient de cela souvent. C'est encore une raison donc pour m'examiner moi-même avant de réagir, pour voir si mes intentions sont pures et pas égoïstes ou orgueilleuses. Voilà encore une raison de tourner ma langue cette fois dans ma bouche avant de dire un mot. Alors pour moi, je dirais plutôt 100 fois dans ma bouche, parce que vous ne connaissez pas assez si vous ne savez pas que parfois je sors des mots qui sont blessants. C'est pourquoi donc le plus grand danger à l'unité vient toujours de l'intérieur de nous-mêmes. Et l'instrument le plus utilisé pour faire cela, c'est la langue. Et c'est pourquoi Jacques a-t-il tellement parlé de la langue. Ce petit organe, dit le dictionnaire, musculeux, allongé et mobile. Trop mobile. Voilà le problème. Trop mobile. Déjà, en chapitre 1, verset 26, que nous avons lu, si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. Lisons maintenant, si vous voulez, avec moi, en chapitre 3 de Jacques, verset 2 à 12, Jacques 2, verset, 3, verset 2 à 12. Dans le contexte précis, il semble que ce soit un problème entre peut-être dirigeants d'une assemblée ou des dirigeants, les responsables, mais le principe est toujours valable, ce qu'il dit au sujet de la langue pour nous tous. Je dirais que si parfois on pouvait arracher la langue, tout le monde aurait beaucoup plus de facilité pour garder l'unité entre nous. Mais voilà ce que dit Jacques à ce sujet. 3, 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps en tout entier. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouverneur au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Oh, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le corps de l'existence embrasée qu'elle est par la géhenne. Ça, c'est fort ce que dit Jacques ici. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et si je m'arrête là, c'est assez sombre ce que dit Jacques. C'est comme si c'est impossible. C'est impossible de contrôler notre langue. En effet, c'est impossible à l'homme, à nous, en être humain. Mais lisons un peu plus loin, verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne ou des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Et pour moi, le verset clé dans ce texte, c'est le verset 10, où Jacques dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, qui nous montre justement que c'est quelque chose qui peut être corrigé, que ma langue peut être domptée. Mais bien sûr, ça ne peut pas venir de moi-même. Moi seul, j'ai besoin de quelque chose d'autre. Et justement, dans le prochain chapitre, comme il avait déjà parlé dans le chapitre 1, il parle de la sagesse qui vient de Dieu. Et c'est là la réponse à ce problème. La maîtrise de notre langue vient de la sagesse, c'est-à-dire de la maîtrise de nos passions. La maîtrise de nos passions qui vient de la sagesse de Dieu. Mais, il y a un grand mais, il y a une sagesse que Jacques appelle terrestre, charnel et démoniaque, c'est-à-dire elle vient du diable. Et cette sagesse-là nous pousse au mauvais comportement. Et puis, ça c'est verset 15, chapitre 3, et il y a une sagesse qui vient de Dieu, qui nous pousse à une bonne conduite, à une bonne conduite. On va lire d'abord chapitre 4, verset 1, et puis on va revenir dans chapitre 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui déroient dans vos membres? Ok, voilà la question qu'il pose, ok? Et la réponse même. Maintenant, nous remontons au chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse? Encore ce mot de douceur, ok? Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère ou de la rivalité, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Mauvaises actions, mauvaises paroles les uns vers les autres. La sagesse d'en haut est d'abord, et voilà la liste des choses, et voilà les choses qu'il faut incorporer dans notre vie, Elle est d'abord pure, ensuite pacifique. Voyez comment ça traite nos relations. Ensuite pacifique, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Si nous avons en nous la sagesse des hommes, des ordres, toutes sortes de pratiques mauvaises, actions mauvaises, mais si nous avons en nous la sagesse de Dieu, donc le fruit de l'esprit aussi, on peut l'appeler cela, on aura toutes ces qualités-là, conciliants, pacifiques, on sera des artisans de paix. Si nous ne sommes pas là, si nous n'avons pas ces choses en nous, il faut s'examiner. Parce que cela veut dire que nous n'avons pas la sagesse de Dieu en nous. Ou comme dit Jacques au chapitre 2, nous n'avons pas la foi vivante. Ou comme il dit aussi, nous aurons une religion qui est vaine si nous n'avons pas ces qualités en nous habituellement, au moins si on ne travaille pas. Mais Jacques a parlé de lutte et de querelles qui viennent de passion ou de l'orgueil. Mais lutter pour vraiment être un avec mon frère ou ma soeur, donc, demande quatre choses de moi. Et je reviens à ce que j'ai déjà dit. Ça demande de moi l'amour, l'humilité, la douceur et la volonté de le faire. Malheureusement, il est facile d'avoir des querelles. Les querelles. C'est trop facile. C'est bête comme c'est facile. Il suffit d'un regard. Il suffit d'un mot. Il suffit d'un geste. Il suffit d'une mauvaise compréhension de quelque chose. Il suffit d'un oubli. Il y a tellement de choses qui nous poussent à avoir des querelles entre nous. Mais lutter pour avoir l'amour, l'humilité et la douceur est difficile, car cela demande une volonté. Je dirais une conviction. Il faut que je sois convaincu du besoin d'avoir ces choses, ces qualités en moi. Est-ce que je le veux? Est-ce que je veux vraiment vivre selon ce que Dieu veut de moi? L'amour, l'humilité et la douceur sont liés aussi, comme les mauvaises choses, à ce qui sort de notre bouche. Et bien sûr, ce qui sort de notre bouche sort en premier de notre cœur, de ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous devons faire le tri et rejeter ce qui est mauvais. Et c'est pourquoi je crois qu'on dit il faut tourner sa langue cette fois dans la bouche, n'est-ce pas? C'est ça l'expression? C'est pour donner le temps pour contrôler ce qui est dans le cœur avant que ça sorte. Il faut que je maîtrise cela. Donc, Jésus a dit en Matthieu 15, verset 18-20, ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème, qui peut être aussi traduit calomnie. Voilà ce qui souille l'homme. En ce qui concerne donc l'unité entre frères et sœurs, entre nous-mêmes, et le danger à cette unité, l'apôtre Pierre avait quelque chose à dire aussi. Lisez avec moi en chapitre 3 d'un Pierre, versets 8 à 13. 1 Pierre 3, versets 8 à 13. Enfin, ayez tous la même pensée, le même sentiment. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, mais insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leur prière. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Voyez comment Jacques, maintenant Pierre, dans un moment, va voir encore un passage dans l'apôtre Paul, traite ce problème entre nous. Le danger vient de l'intérieur et l'instrument le plus souvent utilisé, c'est notre langue. Mais là, l'apôtre Pierre parle de relations entre nous. Et parle ici de devoir les uns envers les autres. les choses que nous devons faire envers les uns envers les autres. Dès Jean chapitre 1, verset 22, il a dit il faut avoir un amour fraternel sincère. Et dans le verset, même verset, il a commandé, et c'est un commandement, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Ce qui implique, ce qui veut dire qu'il faut le faire et qu'il faut le travailler. Ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. C'est quelque chose qui demande le choix. Est-ce que je, ou une volonté, est-ce que je veux faire ce qu'il demande? Au verset 1, chapitre 2, il a continué par le dire, « Rejetez donc toute méchanceté, fraude, hypocrisie, l'envie et toute médisance. » Encore les dangers qui viennent de l'intérieur de nous. Mais pour, quels sont ces devoirs? Il en a donné 6 devoirs, l'apôtre Pierre, pour lutter contre le danger à l'intérieur. Verset 8, chapitre 3. Il a dit qu'il faut avoir les mêmes pensées. Je suis le seul à interpréter ceci comme, ce verset comme ceci, mais je crois quand il dit les mêmes pensées, la même chose comme Paul a dit les mêmes pensées en chapitre 1, le 20e verset 10, qui veut dire qu'en toute situation, l'unité devait être considérée comme primordiale. C'est-à-dire, nous devons tous penser qu'est-ce qui peut contribuer à l'unité entre nous. Il faut avoir tous cette même pensée. C'est comme ça que je l'interprète. Verset 8, toujours, vous devez avoir les mêmes sentiments. Cela peut être aussi traduit d'avoir de la sympathie, ce qui est la capacité de mettre de côté ses propres besoins afin de s'identifier aux besoins de l'autre, de sentir la même chose, de pouvoir se mettre dans la peau de l'autre. C'est presque la même chose que la compassion dans le verset après. Troisièmement, l'amour fraternel. Quatrièmement, la compassion. Je parle ici de devoir. C'est en 1 Pierre 3, 8 à 13. Cinquièmement, on a besoin d'être humble. Et sixièmement, toujours le besoin d'avoir une attitude de pardon. Toujours prêt à pardonner, toujours chercher à pardonner l'autre. Verset 9, ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. Et je ne peux pas bénir quelqu'un si je ne pardonne pas, si je ne suis pas prêt à pardonner. Je ne peux pas éviter l'insulte pour insulte si j'ai une attitude où je ne peux pas pardonner l'autre. Un dernier passage, Romains chapitre 14. Romains 14, verset 17. À 19. Car le royaume de Dieu, c'est non pas de manger, ni de boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuel. Dans verset 18, quand il emploie le mot « sert Christ », celui qui sert Christ, c'est littéralement celui qui est l'esclave de Christ, de cette manière. Et le verset 19, quand il emploie le mot « recherchons la paix », ce qui contribue à la paix, c'est littéralement traduit « poursuivons ce qui contribue à la paix ». Est-ce que je suis esclave de Christ? Est-ce que je poursuis la justice, la paix et la joie? Est-ce que je la poursuis? Je vous demande pardon, mais il y a tellement à dire à ce sujet que nous pouvons passer des heures dessus, mais mon temps est passé. Mais je vais terminer avec une chose, par répéter ce que j'ai dit au début. C'est la quatrième fois maintenant. Je suis convaincu que le point de départ pour toute étude ou discussion de l'unité, que le point de départ pour toute réconciliation où il n'y a pas unité, est de un examen de soi-même. Un examen de soi-même par rapport aux Écritures. Car c'est vrai que le plus grand danger à l'unité de l'intérieur d'une assemblée vient de l'intérieur de chaque membre de l'assemblée. De notre cœur, comme a dit Jésus. Suis-je moi juste devant Dieu dans mes attitudes et mon comportement? Les quelques passages que nous avons lus ne sont pas du tout difficiles à comprendre, mais les appliquer, voilà ce qui est difficile. Voilà le problème. Est-ce que je veux avoir une foi vivante? Est-ce que je veux que ma religion soit sincère et réelle? Est-ce que je veux faire plaisir à Dieu en premier? Est-ce que je veux sincèrement avoir l'unité et suis-je prêt à faire tout pour l'avoir, comme Jésus a tout fait pour moi et pour vous, pour que nous soyons les uns avec lui et les uns avec les autres? Prions ensemble. Notre Père, de ma part de nous tous, je vous demande d'abord que nous aidons à avoir de l'amour les uns pour les autres. Je prie, Père, que tu nous aides aussi à être humbles devant toi et de toujours agir avec douceur les uns envers les autres. Et Père, je prie que tu nous aides à vouloir vivre en unité les uns avec les autres. Père, aide-nous à considérer ce que tu nous dis, à le méditer et à l'appliquer dans notre cœur, chacun et chacune de nous. Aide-nous, Père, à nous examiner par rapport à ta volonté, à vouloir faire ce que tu veux. Je te prie, Père, de me pardonner si je me suis mal exprimé ce soir, parce que j'ai le cœur tellement lourd pour mes frères et sœurs, parce que je veux que nous soyons un. Père, aide-nous à résister au diable. Aide-nous à nous contrôler. Aide-nous à être tes enfants, pour que le monde puisse voir que tu es notre Dieu. Nous prions ces choses, Père, au nom de Jésus. Amen.
Dans un petit moment, nous allons...